monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington, mardi 11 septembre 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir, au Cameroun, des affrontements entre séparatistes anglophones et soldats ont eu lieu à Bouéa. L'Éthiopie et l'Érythrée ont rouvert leurs frontières terrestres après deux décennies de conflits. Syrie, au moins 21 membres des forces du régime et des milices alliées ont été tués dans une embuscade tendue par le groupe État islamique. C'est le 11 septembre, les États-Unis commémorent les attaques qui ont fait près de 3000 morts. 17 ans après, il reste plus de 1000 corps à identifier. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Cameroun, 4 personnes, dont un officier de police, ont été tuées ce matin à Bouéa. Ce bilan fait suite aux affrontements qui ont éclaté entre séparatistes anglophones et forces de sécurité. Précision avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Ce mardi matin, il a fallu un fort déploiement des militaires camerounais dans la ville de Bouéa pour amener la situation à la normale dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Mais la ville de Bouéa porte encore les stigmates des affrontements de ce matin, rapportent les sources administratives et sécuritaires. Des carcasses de véhicules incendiés, des pneus de voitures calcinés et quelques débris de barricades érigés aux premières heures de la matinée par les séparatistes anglophones, selon les autorités militaires de la région. Certains résidents de Bouéa, joints par VOA Afrique, ont témoigné sur ces affrontements entre les séparatistes anglophones et les forces de défense et de sécurité. On a suivi les coups de feu vers 4h30 temps universel, a déclaré une résidente de Bouéa, sous anonymat, terrée dans sa maison. Selon des sources militaires, le théâtre des affrontements a été les localités de Mile 17, Mekon Albert Avenue et le lieu dit Mouya. Les séparatistes ont pendant quelques instants bloqué l'entrée de la ville de Bouéa avant d'être délogés par l'armée camerounaise qui contrôle désormais l'entrée et la sortie de la ville de Bouéa. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, l'aile dure du FPI fondée par l'ancien président Laurent Gbagbo demande le report des élections locales du 13 octobre et réitère sa demande de réforme de la commission électorale. Il y a 10 jours, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire avait lui aussi demandé un report du scrutin. Toujours en Côte d'Ivoire, des affrontements ont eu lieu aujourd'hui entre policiers et étudiants qui protestaient à Abidjan contre les frais de scolarité. Les étudiants ont lancé des pierres et les forces de l'ordre ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes au point d'entrée du campus de l'université au Fouet-Boigny de Cocody, un quartier d'Abidjan. République démocratique du Congo. Un policier a été mis aux arrêts après avoir tiré des coups de feu à quelques mètres de la radio-télévision nationale à Kinshasa. La police explique que l'agent a tiré en l'air 3 à 4 coups pour se protéger face à la résistance de mécaniciens armés d'objets mécaniques qui s'opposaient à une opération d'enlèvement d'épaves de véhicules à Lingwala sur le terrain de football en face de la RTNC. En RDC toujours concernant l'épidémie d'Ebola, les analyses réalisées après le décès d'une jeune fille présentant des symptômes de la maladie à Kisangani se sont révélées négatives selon le ministère de la Santé. Le ministère avait indiqué avoir reçu une alerte de fièvre hémorragique à Kisangani, le chef-lieu de la province de la Tchopo dans le nord-est du pays. Explosion d'une station-service au Nigeria. 9 personnes sont mortes hier et plus de 30 personnes ont été blessées, dont beaucoup sont toujours dans un état critique. L'accident a eu lieu lundi après-midi à Lafia, capitale de l'État, à 190 km à l'est de la capitale fédérale Abuja. L'Éthiopie et l'Érythrée ont rouvert 2 postes frontières fermés depuis 20 ans. Nouvelle étape de la spectaculaire réconciliation de ses voisins de la Corne de l'Afrique. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afewerki ont participé à 2 cérémonies distinctes à l'extrême sud de la frontière de l'Érythrée, au nord-ouest de l'Éthiopie. Cette réouverture des 2 postes frontières permettra un accès à la mer Rouge via les ports érythréens d'Assab et de Massawa. Cela va faciliter les importations et exportations éthiopiennes qui passent essentiellement par Djibouti. Ces postes frontières font partie des points de passage fermés en 1998, au début de la guerre de 2 ans qui a fait 80 000 morts. Un conflit de 20 ans entre l'Éthiopie et son ancienne province a suivi, paralysant le développement et minant la sécurité régionale. Mais, contre toute attente, une volonté d'ouverture de la part d'Abiy Ahmed en juin a été accueillie favorablement par Isaias Afewerki, amorçant un rapprochement entre les deux pays.
Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a écarté tout risque de sanctions internationales s'il engage sa réforme agraire qui prévoit notamment des expropriations sans indemnisation au profit de la majorité noire du pays. Aujourd'hui, la minorité blanche, 8% de la population, possède 72% des fermes contre 4% seulement pour les noirs qui forment 80% de la population selon le président sud-africain. Il envisage donc de modifier la constitution pour autoriser des expropriations sans indemnisation. Toujours en Afrique du Sud, la criminalité a augmenté de près de 7% l'an dernier pour atteindre un taux inquiétant de 57 meurtres par jour. C'est la sixième hausse annuelle consécutive. Cela fait ressembler l'Afrique du Sud à une zone de guerre alors que nous vivons en paix, a reconnu le ministre de la Police.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les Américains commémorent ce mardi le 17e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, des attaques qui ont fait près de 3000 morts à New York, en Virginie et en Pennsylvanie. Nathalie Barge.
Le président Donald Trump a prononcé un discours lors d'une cérémonie au mémorial de Shanksville en Pennsylvanie. Un avion s'y était écrasé après que les passagers eurent bravé les terroristes qui avaient détourné l'appareil. 17 ans après, Donald Trump proclame le 11 septembre journée du patriote.
Our destiny is always in our hands. America's future is not written by our enemies.
Notre destin est toujours entre nos mains. L'avenir des États-Unis n'est pas écrit par nos ennemis. L'avenir des États-Unis est écrit par nos héros, a-t-il déclaré. À New York, des centaines de personnes se sont réunies à Ground Zero, où deux vols commerciaux détournés avaient percuté les tours jumelles du World Trade Center. Les noms des victimes ont été cités lors d'une cérémonie solennelle. Ces attaques ont été perpétrées par 19 membres d'Al-Qaïda, poussant le président George Bush à envahir l'Afghanistan. Et Osama bin Laden, désigné comme commanditaire, sera abattu près de 10 ans après, sous la présidence de Barack Obama.
Et aux États-Unis toujours, une vaste zone de la côte Est se préparait aujourd'hui au passage de Florence, un ouragan potentiellement dévastateur. Les autorités ont ordonné l'évacuation de plus d'1,5 million de personnes. Les États de Virginie, Caroline du Nord et Caroline du Sud restent les plus menacés par l'ouragan, toujours classés catégorie 4, avec des vents pouvant atteindre 215 km/h. L'ouragan Florence devrait atteindre jeudi les côtes américaines. Les autorités s'attendent à des inondations majeures à l'intérieur des terres jusqu'en début de semaine prochaine. La Cour pénale internationale dit ne pas être dissuadée par les mises en garde américaines. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a menacé de sanctions les juges et procureurs de la CPI s'ils s'en prenaient à des Américains ou à Israël. Il s'oppose à de possibles enquêtes contre des militaires américains ayant servi en Afghanistan, mais aussi d'éventuelles investigations contre Israël à l'instigation de l'autorité palestinienne. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité aujourd'hui de la décision des États-Unis de fermer le bureau de la représentation palestinienne à Washington. Il s'agit de la première réaction officielle israélienne depuis l'annonce lundi de Washington qui accuse les dirigeants palestiniens de refuser de parler avec l'administration de Donald Trump et d'engager des négociations avec Israël. En Syrie, au moins 21 membres des forces pro-gouvernementales et des milices alliées ont été tués dans une embuscade tendue par le groupe État islamique dans le sud-est du pays. Nani Talani.
Selon Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'embuscade a eu lieu hier soir à Tloul al-Safa, dans le désert de la province de Sueda, dernier réduit du groupe État islamiste au sud-est de Damas. 8 djihadistes ont péri durant les affrontements qui ont suivi l'embuscade. L'agence Sana a fait état de combats intenses contre les terroristes de Daesh. Elle a indiqué que des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ciblés ont visé des positions de ce groupe terroriste. La région de Sueda est le théâtre de combats intenses depuis le 25 juillet. les djihadistes avaient mené une série d'attaques coordonnées dans la province de Sueda, faisant plus de 250 morts. Le groupe a également pris en otage une trentaine de civils, dont plusieurs enfants. Deux otages sont morts, dont un jeune homme de 19 ans qui a été exécuté par décapitation.
Syrie toujours, le ministre français des Affaires étrangères estime qu'un assaut du régime sur la province d'Idleb aurait des conséquences directes pour la sécurité en Europe en raison du risque de dispersion des milliers de djihadistes concentrés dans cette zone. Une série d'attentats a frappé l'est de l'Afghanistan. On compte au moins 33 morts parmi des participants à une manifestation près de la frontière pakistanaise et devant une école pour filles. La Russie a lancé aujourd'hui les plus vastes exercices militaires de son histoire avec la collaboration de la Chine. Près de 300 000 hommes sont mobilisés ainsi que des soldats chinois. Vostok 2018, qui doit se poursuivre jusqu'au 17 septembre en Sibérie orientale et dans l'extrême-orient russe, est dénoncé par l'OTAN comme la répétition d'un conflit de grande ampleur. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Eric Manirakiza.
L'Export Import Bank of China a accordé au Nigeria 500 millions de dollars pour initier des programmes de développement dans le secteur pétrolier. Le gouvernement pourra donc financer l'achat d'équipements pétroliers chinois par des investisseurs nigériens. Ce financement facilitera aussi la création de plusieurs raffineries modulaires et plus de 100 000 emplois dans le pays. La Zambie envisage de réduire son déficit budgétaire à 5,1% du produit intérieur brut d'ici les trois prochaines années. Lusaka vise à améliorer les performances de l'économie, maintenir le taux d'inflation entre 6% et 8% et accroître les recettes intérieures à au moins 19% du produit intérieur brut. La dette extérieure s'est établie à 9,3 milliards de dollars en juin dernier. Au Zimbabwe, le nouveau ministre des Finances, Mthuli Nzubi, veut réintroduire le dollar zimbabwéen comme monnaie souveraine. Elle avait été abandonnée il y a près de 10 ans pour le dollar américain. Les précieux billets verts sont de plus en plus rares. La dette publique du Zimbabwe a atteint 2 milliards de dollars américains, soit environ 90% du produit intérieur brut. Le ministre a aussi promis une réforme fiscale et la renégociation de la dette pour accompagner le retour de la devise nationale. Monsieur Nsubi est professeur à l'université britannique d'Oxford et ex-président de la BAD.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Suite de la Ligue des Nations ce soir en Europe.
La Croatie, finaliste du Mondial 2018, reprend la compétition ce mardi avec un choc contre l'Espagne. Un challenge pour les hommes de Zlatko Dalic, tandis que la soirée s'annonce plus accessible pour la Belgique en déplacement en Islande. Les autres matchs ce soir, Bosnie-Herzégovine-Autriche, Finlande-Estonie, Hongrie-Grèce, Moldavie contre la Biélorussie et puis le Luxembourg en déplacement à Saint-Marin.
Et des matchs amicaux ?
Et oui, à Osaka, le Japon qui bat le Costa Rica 3-0, le Kenya qui domine le Malawi 1-0, le Gabon affronte la Zambie sans Pierre-Emerick Aubameyang qui a quitté la sélection gabonaise pour ce rendez-vous devant leur public. Les Panthers sont donc privés de leur buteur et capitaine, l'attaquant d'Arsenal, auteur de l'égalisation face au Burundi ce week-end en éliminatoire de la CAN 2019, a quitté la sélection hier soir pour l'Europe. Et on joue ici aussi de ce côté de l'Atlantique, l'Argentine qui rencontre la Colombie dans le New Jersey, tandis que le Brésil affrontera le Salvador dans le Maryland et le Mexique se mesure aux États-Unis à Nashville.
Vers une nouvelle coupe pour les clubs européens.
L'UEFA a donné son feu vert à la création à partir de 2021 d'une troisième coupe européenne ouverte à 32 clubs. Annonce d'Andrea Agnelli, le président de la Juventus Turin et de l'Association européenne des clubs. Il n'existe, vous le savez, que deux coupes européennes pour le moment, la Ligue des Champions et la Ligue Europa, depuis la disparition en 1999 de la Coupe des vainqueurs de coupe. La création de cette nouvelle compétition, voulue par les petits championnats et les petits clubs, doit encore être officiellement validée par le comité exécutif de l'UEFA.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. 17 ans après les attaques meurtrières du 11 septembre, plus de 1100 victimes doivent encore être identifiées. Dans un laboratoire de New York, une équipe de chercheurs travaille sans relâche pour identifier leurs restes. Jour après jour, ils répètent le même protocole des dizaines de fois, comptant sur les progrès technologiques pour améliorer leurs recherches. Arzuma Compaoré.
Tout commence par l'examen d'un fragment d'os trouvé sur le site des ruines des tours jumelles. À ce stade, il n'a pas encore été préparé pour le test d'ADN. Le fragment est coupé et transformé en poussière fine, puis mélangé à deux produits chimiques pouvant exposer puis extraire l'ADN. Mais le succès n'est pas garanti. Le feu, la moisissure, les batteries, de la lumière solaire, le carburant, tous ces éléments qui détruisent l'ADN étaient présents à Ground Zero. All these things destroy DNA and they were all present
at Ground Zero. Les 22 000 restes humains trouvés sur le site depuis les attaques ont tous été testés, entre 10 ou 15 fois déjà. Jusqu'à présent, seuls 1642 des 2753 personnes décédées dans les attentats de New York ont été officiellement identifiées. Même s'il est arrivé que les années passent sans qu'aucun nouveau nom ne soit rajouté à la liste des identifiés, tout le monde ici garde espoir.
Quand on identifie un de vos proches, cela vous ramène à ce jour, à la manière horrible dont il est mort. Mais cela vous donne aussi un peu de réconfort et la possibilité de donner un enterrement convenable à son être cher.
Le rôle des proches est essentiel car seule la comparaison de l'ADN des restes avec un échantillon fourni par les familles peut permettre l'identification.
Le chef de l'unité des personnes disparues du bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York a déclaré que le bureau continuait à faire de nouvelles identifications de restes. Il a déjà identifié des centaines de fragments d'os appartenant à des personnes identifiées, permettant ainsi le retour de leurs restes aux membres de la famille. Le laboratoire du bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York est le plus grand laboratoire judiciaire en Amérique du Nord. Aujourd'hui, des équipes du monde entier viennent à New York pour s'inspirer de l'expérience du laboratoire.
Jacques Aristide avec vous. Le président tanzanien John Magufuli appelle les femmes de son pays à abandonner les moyens de contraception. Êtes-vous pour ou contre le planning familial? C'est la question que nous vous posons dans À votre avis, votre émission interactive, ce soir à 18h TU. Laissez-nous votre numéro de téléphone et commentaire sur la page Facebook de VOA Afrique ou appelez-nous en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure.
Au Burundi, rentrée des classes hier pour des dizaines de milliers d'élèves du primaire. Une diminution des abandons scolaires a été constatée dans certaines régions. De nombreux étudiants ne peuvent plus s'octroyer le matériel scolaire car les parents n'en ont pas les moyens. Ainsi, les bienfaiteurs et des autorités ont distribué du matériel scolaire dans les provinces burundaises. Reportage de notre correspondant Christophe Kurunziza à Bujumbura.
Dans les ruelles de Bujumbura, des enfants revenaient vers 12h30, certains habillés de leurs uniformes, mais les mains vides, d'autres avec des cahiers dans leur sac au dos. Mais dans beaucoup de ménages de la capitale, les enfants n'avaient pas encore acheté tout leur matériel didactique. Leurs parents ont indiqué à VOA Afrique que les temps qui courent ne sont pas adéquats, car lier les deux bouts de la journée devient une gymnastique compliquée. Témoignage de ce parent de 5 enfants qui a requis l'anonymat.
La situation est devenue vraiment très difficile. Moi, ma femme ne travaille plus, je suis seul, et les activités marchent très mal. Alors, le rentrée scolaire de cette année, ça stresse beaucoup. Je n'ai même pas encore arrivé à payer le minévar de mes enfants. Les cahiers, je n'ai jamais eu toute la totalité des cahiers.
Mais dans certaines localités de l'intérieur du pays, des bienfaiteurs ont distribué du matériel scolaire aux plus vulnérables, tandis que le président de l'Assemblée nationale burundaise, Pascal Nyabendana, a octroyé aux élèves qui ont fait des camps d'été. Le président de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance burundi, Jacques Nshimirima. Cette année scolaire 2018-2019 est meilleure que l'année dernière où on a enregistré beaucoup d'abandons scolaires.
Au cours de l'année scolaire 2017-2018, nous avons pu constater plus de 71 652 cas d'abandon scolaire et 1421 cas de grossesse non désirée. Et là, comparativement aux effectifs de l'année passée, donc c'est-à-dire l'année scolaire 2016-2017, il y a eu une petite dégression par rapport aux effectifs de l'année scolaire 2016-2017, parce que là, on avait 218 345 cas d'abandon scolaire, et pour cette année passée, on a pu recenser 171 652 cas.
Jacques Chimirimana fustige également le taux d'abandon scolaire à l'est du Burundi, dans la province de Ruyigi.
Nous avons attiré l'attention du gouvernement sur la situation qui prévaut dans la province de Ruyigi, une province qui quitte de 594 cas d'abandon scolaire à 10 838 cas. Donc cela, c'est vraiment normal. Demande la conjugaison des efforts de tous les intervenants, donc les organisations de la société civile, les élus du peuple, les députés, les sénateurs, les autorités administratives, sans oublier les parents, sans oublier les enseignants qui sont en contact permanent avec les enfants.
Signalons aussi que les frais d'inscription pour cette année scolaire ne seront pas payés par les parents, mais seront comptabilisés dans les frais de minéral des élèves. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En République démocratique du Congo, l'utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique est strictement interdite depuis le 1er juillet. Cependant, cette décision, qui est entrée en vigueur après un moratoire de 6 mois, souffre dans sa mise en application. Le gouvernement et les industries productrices et importatrices de ces emballages solides jouent au chat et la souris. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La décision gouvernementale d'interdire l'importation, la production et la commercialisation des emballages en plastique est officiellement entrée en vigueur le 1er juillet dernier après un moratoire de 6 mois. Mais 2 mois après, le décret y afférent signé par le Premier ministre s'applique difficilement sur le terrain. Le ministre de l'Industrie, qui pilote les opérations de sensibilisation et de contrôle, a rappelé que cette décision salvatrice pour l'environnement ne devrait souffrir d'aucune exception. Marcel Léou a par ailleurs annoncé à VOA Afrique le déploiement des inspecteurs des ministères de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Environnement pour s'assurer de la mise en application de cette décision.
Toute la population, les opérateurs économiques y compris, qu'on puisse respecter ce décret. Parce que au-delà de cette date, les inspecteurs du ministère de l'Industrie, les inspecteurs du ministère du Commerce extérieur, de l'Environnement et de l'Économie feront plusieurs descentes sur terrain pour vérifier la mise en application de ce décret portant interdiction des emballages et sacs en plastique.
Le gouvernement avait exigé aux entreprises locales productrices des déchets solides, après de nombreuses mises en demeure, de se transformer en producteurs d'emballages en papier et autres emballages biodégradables pour ne pas fermer. L'environnementaliste Alain Botoko propose de son côté que l'État finance plutôt le recyclage de ces emballages en plastique.
Nous, dans la gestion environnementale, nous disons que les déchets solides ou les déchets en plastique ne sont produits à Kinshasa, par exemple, qu'à 16%. Dans tout le Congo, c'est autour de 7-8%. Et le groupe de déchets qu'il faut lutter, ce sont les déchets organiques. Et là, on peut produire de l'électricité. Donc, le déchet en plastique, on peut recycler ça. L'État peut donner des moyens aux entrepreneurs, initier des actions pour que le déchet plastique soit transformé, par exemple, en bitume. Ça peut durer des années et des années.
Certains inspecteurs font déjà le tour des supermarchés de Kinshasa pour s'assurer que la mesure est respectée. Les Kinois, eux, apprécient diversement cette décision gouvernementale.
Cette décision souffre d'application sur terrain. Nous pensons que le gouvernement devra renforcer davantage les mesures d'application afin que cette mesure puisse être respectée, parce que nous continuons à voir ces emballages en sachets, en plastique, qui sont en train de détruire l'environnement, en train d'être produits et même commercialisés. Et cet usage ou cette utilisation de ces emballages ne favorise pas la propriété de la ville, ça pollue également l'environnement.
Dans les jours à venir, le gouvernement de la RDC promet d'intensifier le contrôle et d'étendre la mesure sur l'ensemble du pays. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le chanteur et député Bobi Wine a finalement réussi à quitter l'Ouganda pour les États-Unis au début du mois de septembre. Inculpé de trahison, il avait été remis en liberté après une arrestation à l'aéroport d'Entebbe, alors qu'il tentait déjà de quitter le pays pour soigner des blessures. Pourquoi le chanteur et député ougandais suscite autant de passion ? À Kampala, le reportage de Patricia Huon.
Free Bobi Wine, libérer Bobi Wine. L'inscription à la peinture blanche se répète tous les quelques mètres sur les murs de Kamocha, un quartier pauvre de la capitale ougandaise Kampala. C'est dans ces ruelles qu'a grandi Robert Chakulani Sentamu, mieux connu sous son nom de scène, Bobi Wine. En se lançant en politique, la star locale de l'Afrobeat est devenue le porte-parole d'une jeunesse en mal de héros auquel s'identifier. Bachir, 20 ans, est producteur dans un studio d'enregistrement créé par son idole.
Ces chansons donnent de l'espoir. Il parle de la vie dans le ghetto, des difficultés, de comment on peut s'en sortir. Ces paroles, j'ai mis sans connecter. Même avant, les chansons de Bobi Wine étaient déjà politiques. Le président ne comprend pas les jeunes. Nous voulons une nouvelle génération, quelqu'un qui attend nos pleurs.
Celui qu'on surnomme ici le président du ghetto s'est fait un nom sur ses prises de position engagées. Dans ses chansons, il dénonce les dérives du pouvoir, la corruption, les injustices. L'année dernière, Bobi Wine saisit l'opportunité d'une élection partielle pour se présenter comme candidat indépendant. Il est élu. En Ouganda, trois quarts de la population a moins de 30 ans. La génération née alors que le président Yoweri Museveni était déjà au pouvoir n'a pas connu la guerre. Plus que de stabilité, elle rêve de changement. Anna Adeke Ebadjou, 26 ans, est députée nationale des jeunes à l'Assemblée.
Bobi Wine is like a breath of fresh air.
Bobi Wine, c'est une bouffée d'air frais. Jusqu'ici, même l'opposition était dominée par des gens qui avaient combattu aux côtés de Museveni. Mais Bobi Wine est différent. Il est jeune, il est dynamique, il a galéré dans sa vie, il a fait de la musique, a encouragé les jeunes à retourner à l'école. Son histoire, c'est notre histoire.
La popularité du chanteur inquiète les autorités qui répondent de manière brutale. Mais pour Yvan Okuda, journaliste et commentateur politique, il ne faut pas sous-estimer leur contrôle.
Bobi Wine a attiré une énorme attention de la part des médias locaux et internationaux, mais le président actuel sait comment utiliser la violence, la machine politique lors des élections. Il détient l'argent aussi. Pour renverser les statu quo, il faudrait plus que des réseaux sociaux. Cela demanderait énormément de préparation et d'organisation.
Mais Bobi Wine est déterminé à revenir en Ouganda dès qu'il aura repris des forces et le rappeur devenu député n'a pas fini d'agiter la scène politique du pays. Patricia Huon à Kampala pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sims Loumami. À la console, Joe Gill. À la présentation, Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore.
sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.